Bonjour à chacun, chacune. J'aurai un mot d'introduction, puisque la circonstance est celle de la nouvelle année, et puis les lectures bibliques se feront après, et je donnerai une conclusion après ces lectures bibliques. Ce premier jour de l'année, ou ce premier culte, nous donne l'occasion à Eddie et à moi, qui sommes des vieux compagnons. Je faisais un petit compte, je crois qu'il y a 34 ans que nous assistons à ces premiers cultes de l'année. Il y a eu une exception, nous étions en Afrique, auprès de Claude et Christiane, au Cameroun. Nous voulons vous présenter nos meilleurs vœux à chacun, à chacune, présents, aux absents, aux malades. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année vécue dans la proximité du Seigneur. Il est cependant vrai, nous le savons tous, cette nouvelle année dans laquelle nous sommes entrés depuis environ 34 heures, nous est inconnue. Mais notre privilège de chrétien nous permet d'y entrer avec confiance en croyant fermement que le Seigneur nous y précède et nous assure de sa présence pour chaque journée qu'il nous soit accordé de vivre. Denise nous a rappelé la paix de Dieu et j'ajouterai simplement à cette paix de Dieu, Dieu pourvoira. C'est notre acte de confiance que nous voulons faire ensemble au début de cette année. Les jours qui sont devant nous nous sont inconnus, mais faisons confiance à celui qui pourvoira. Maintenant, quelques petits mots d'explication sur cette année. Pourquoi est-ce qu'on fête ce début d'année ? Pourquoi notre monde occidental, en particulier bien au-delà, a-t-il ce besoin de marquer le rythme des années et les identifier par des nombres ? 2011, cette année. Cela correspond à quoi ? Et quelle en est la raison ? Je ne sais pas si vous êtes posé la question. Je vous transmets maintenant quelques renseignements glanés ici et là. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à avoir ce type de questions. D'autres les sont posées avant nous. Nous ne sommes pas les seuls à réfléchir à ce rythme des années. J'ai en main un calendrier mixte pour la nouvelle année avec une belle fille du Laos. qui comporte bien sûr les repères christologiques à partir de la naissance de Jésus, mais aussi la date de naissance de Bouddha, en avance sur le Christ. Ce calendrier signale que pour une partie du monde, l'année du lièvre 2554 va commencer les 13, 14 et 15 prochains. Et puis l'année chinoise va se situer à la mi-janvier. À la mi-février, pardon. Et puis, il existe certainement encore d'autres calendriers que je ne connais pas. Donc, c'est une question quand même très, très relative. Les hommes ont découvert très vite, par l'observation, que les saisons se succédaient, mais revenaient avec un rythme régulier. Et à un certain moment de l'histoire humaine, on a compris que la Terre faisait le tour du Soleil, selon un certain rythme, et ceci approximativement en 12 mois. Et voilà ce qui a donné cette notion de l'année et d'un cycle qui recommence inlassablement, et cela sans doute depuis des millénaires. Voilà pourquoi nous avons ce début d'année. La date du début de l'année n'a pas toujours été la même dans l'histoire passée, en tout cas en ce qui concerne l'Occident. Les Romains l'ont fixé à différentes périodes du cycle qui, lui, est immuable. L'Église chrétienne l'a fixé au IIe siècle, à la période de Pâques. C'est finalement grâce au mouvement républicain français que la date actuelle du 1er janvier a été fixée en 1806. C'est pas si vieux que ça. Et curieusement, correspond aussi dans le monde occidental à la date qui a été fixée pour célébrer la période de la naissance de Christ. C'est pour ça que ces deux dates sont très proches l'une de l'autre. Ainsi, dans la plupart de nos documents historiques, la date fixée est celle de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. ce système marque l'ensemble de la planète, et on oublie trop facilement que la naissance du Christ a aussi marqué cette histoire du monde au niveau des repas, des dates dans le monde séculier. On oublie quelquefois cela. Et peut-être que ceux qui rejettent l'idée de Dieu pourraient peut-être réfléchir un peu à cette question. L'homme a besoin de repères. Et le passage d'une année à l'autre permet et invite à faire un bilan, des constats, parfois des comptes, des projections ou des projets pour le futur aussi. Peut-être que pour nous chrétiens, c'est une occasion de regarder en arrière, on l'a déjà évoqué au début de ce culte, pour constater certains déficits d'ordre spirituel, soyons honnêtes. Mais la fin d'une année nous invite d'abord à faire un bilan pour remercier le Seigneur pour sa sollicitude, sa bonté, sa protection et son accompagnement dont nous ne nous sommes pas toujours rendus compte au cours de l'année écoulée. Nos déficits, et ça c'est une grande nouvelle, nos déficits, le Seigneur les a pris en charge, mais ce n'est pas une invitation à les renouveler. Mais voilà, nous sommes face à l'avenir et nous sommes invités les uns les autres à nous investir dans cette nouvelle année, à formuler des projets, pas seulement au niveau matériel, mais au niveau de notre vie de communion et de service avec et pour Dieu. C'est la raison pour laquelle je propose que nous écoutions maintenant 4 textes tirés de la deuxième épître aux Corinthiens qui contiennent des illustrations parlantes sur comment vivre notre vie chrétienne. Paul a utilisé ces images pour stimuler pratiquement ses amis de l'église de Corinthe, confrontés, comme nous le sommes peut-être, à une société difficile qui est celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Après la lecture de ces textes qui sont faits par nos amis, j'essaierai d'actualiser ces illustrations pour les adapter à notre contexte d'aujourd'hui, et ceci grâce à un PowerPoint. Alors, j'invite, essayez en écoutant les lectures, de repérer déjà ces 4 illustrations. Alors, je donne la parole à nos lectrices.
La première lecture est dans 2 Corinthiens 2, les versets 14 et 15. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent.
Après 2 Corinthiens 3, les versets 2 et 3. Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs.
Et 2 Corinthiens 3, 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le voient le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Et finalement, au chapitre 4, versets 7 et 5, verset 20. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribué à Dieu et non pas à nous. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
J'ai repéré ces quatre illustrations donc tirées de la deuxième aux Corinthiens, comme vous avez pu le voir, dont nous le savons, Paul est l'auteur. Peut-être que vous les avez identifiées en écoutant la lecture des textes il y a un instant. Parlons d'abord du contexte. C'est au cours du deuxième voyage missionnaire, selon Actes 18, nous retrouvons ce récit dans Actes 18, que Paul, venant d'Athènes avec ses compagnons, s'arrête pour 18 mois à Corinthe et instruit les nouveaux croyants gagnés à l'évangile de cette ville. Après son séjour, Paul reçoit de mauvaises nouvelles de cette communauté. Il s'ensuit une correspondance que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. C'est donc dans la deuxième lettre que nous découvrons, à mon sens, ces termes. Peut-être qu'il y a eu une troisième lettre. Les théologiens en discutent, on ne sait pas très bien si une lettre s'est perdue entre-temps. Mais les illustrations dont nous parlons aujourd'hui, nous les retrouvons donc dans la deuxième lettre. Cette lettre est aussi marquée par une note générale d'encouragement, de consolation et d'invitation au ministère de réconciliation après des moments difficiles. Vous pouvez retourner dans la première épître et vous découvrirez le genre de difficultés par lesquelles il passait. Paul utilise ces illustrations pour rendre ses lecteurs attentifs. J'espère aussi que nous le sommes ce matin. Paul essaie de rendre ses lecteurs attentifs à deux vérités fondamentales. La première, c'est le statut du chrétien obtenu par l'œuvre du Christ. Ça revient comme un leitmotiv. Et comme conséquence immédiate, le rôle confié aux chrétiens pour la société dans laquelle ils vivent. En général, nous nous arrêtons beaucoup à la première vérité et nous passons parfois un peu rapidement sur la seconde. Alors j'invite maintenant la suite, la projection du PowerPoint. Vous avez deviné, il y a là un flacon. Le flacon, oui, nous parle d'odeur, nous parle de parfum. Dans le texte qui a été lu, il a été question d'odeur et de parfum. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les deux choses se suivaient. Paul rappelle aux chrétiens de cette première génération qui sont maintenant promus à nouveau au statut, il les compare à une odeur qui contraste avec l'ambiance de l'époque et n'hésite pas à utiliser des termes assez forts, des termes de vie et de mort, vous avez pu le remarquer. Mais il faut replacer aussi ces termes dans le contexte de l'époque. Par cette illustration, Paul veut dire « Maintenant, vous êtes différents au niveau moral et spirituel. Votre nouveau statut d'appartenance dégage, selon l'illustration utilisée, une odeur. Il est question de l'odeur du Christ. Et par voie de conséquence, pour Dieu, par le Christ, vous êtes un parfum pour Dieu, d'où notre illustration du flacon. Pour ce matin, c'est un appel extraordinaire, un rappel extraordinaire de notre statut devant Dieu grâce à l'œuvre du Christ. Je crois que nous ne passons pas assez de temps pour être reconnaissant. Nous avons essayé de le faire dans ce moment de prière ce matin déjà. Et pour nous, bien sûr, c'est un rappel extraordinaire de ce statut qui nous a été acquis grâce à l'œuvre du Christ. Nous sommes aussi appelés à être odeur et parfum du Christ dans notre contexte de 2011. Mais le texte contient, selon ma compréhension, un deuxième sens. Et nous pose la question de notre rôle. Qu'est-ce qui se dégage de nos personnes? Qu'est-ce qui se dégage de nos couples, de nos familles, de notre communauté, de l'environnement dans lequel nous vivons? Est-ce une odeur agréable qui interpelle? Il semble que cette illustration nous parle surtout de nos attitudes et pas tellement du faire. Et nous le savons que fort bien, notre attitude intérieure devrait toujours précéder le faire. En principe, l'être précède le faire. Et malheureusement, souvent, nous inversons les choses. Une question, et j'aurai quatre questions, par rapport justement à ces quatre illustrations. Une question. Que se dégage-t-il de nos personnes? J'ose espérer, et je l'espère pour moi, j'espère un parfum agréable à Dieu et à notre entourage. Mais ce n'est pas si simple que ça. Quand on réfléchit parfois à nos humeurs, à nos réactions, je ne suis pas sûr que ça sente toujours le parfum. La deuxième illustration, vous avez ici un texte, l'image d'une lettre qui correspond au texte du chapitre 3, versets 2 à 3. Dans cette deuxième illustration, Paul, en l'évoquant, va simplement, à mon sens, plus loin, plus à fond, dans l'affirmation du nouveau statut des frères et sœurs de Corinthe. Il semble qu'il insiste pour qu'ils comprennent bien quel est leur nouveau statut par l'expérience qu'ils ont vécue. L'écrit dans notre société est devenu, nous le savons, un déluge de papier, d'écrits, sans parler des illustrations. Puis l'écrit ne suffit plus, il est doublé par le visuel. Or, dans le contexte du premier siècle, l'écrit était simplement rare, d'où son importance aussi. Le seul moyen de communication autre que l'oral était la rédaction manuelle. Vous avez un petit exemple par cette projection. Pas de machine à écrire à l'époque. Et ces jours derniers, en préparant ce PowerPoint avec un de mes petits-fils, qui est relativement jeune, il ne savait pas ce qu'était une machine à écrire. J'ai été chercher la machine à écrire, qui a 60 ans, dans notre cave, pour lui montrer cette machine à écrire. Et ceci révèle quand même toute l'évolution dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Ce constat donne une très grande importance à cette illustration de la lettre. Paul, comme pour renforcer la première illustration, fait référence à l'écrit en comparant ses amis à une lettre. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Mais Paul s'empresse de cadrer ce ministère en citant l'œuvre du Saint-Esprit, nous trouvons ça au verset 6, qui est prioritaire dans tout ce processus. Ce n'est pas seulement Paul, mais il y a dans ce processus l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a gravé cette lettre que représentent les chrétiens de Corinthe. Il y a un rapport primordial qui statue que toute œuvre de vie spirituelle valable est celle du fruit de l'action du Saint-Esprit. Une vérité à rappeler au début de cette année pour tout ce que nous entreprendrons dans le cadre de notre communauté. Une lettre se voit, un parfum se sent, et il me semble que Paul essaye d'encourager à travers ses illustrations le faire de ses amis après le sentir. Le faire après le sentir. Une question que je me pose aussi à moi-même et que je vous pose, que se dégagera-t-il de nos actes quotidiens au cours de cette nouvelle année? Je pense à l'écrit qui fait allusion à la droiture, à la parole donnée, à l'honnêteté, à une éthique conforme qui se dégage, par exemple, du sermon sur la montagne, qui était la lecture proposée ce matin. Mais cette question ne remet pas en cause notre statut d'accueilli du Seigneur. Puis nous passons à la troisième illustration, qui est l'illustration d'un miroir. Un miroir qui doit dater un peu vu sa forme, mais qui correspond au temps ancien. La troisième illustration réunit en quelque sorte les deux premières, le être et le faire. Mais pour bien la comprendre, il faut dire quelques mots du contexte sur lequel Paul base son illustration. Après la sortie du pays d'Égypte, Moïse et ses compagnons construisent dans le désert le tabernacle. Nous avons toutes ces indications dans le livre d'Exode, si vous avez envie d'y retourner. Cette construction fabriquée avec des tentures diverses, il n'y a pas trop de matériel dur dans le désert, semble-t-il, Cette construction fabriquée avec des tentures diverses contient le lieu saint et le lieu très saint. Lorsque Moïse entrait, en quelque sorte, en consultation avec Dieu dans le tabernacle, puis en ressortait, son visage rayonnait tellement que les fidèles étaient effrayés. Ainsi Moïse, par égard, utilisait un voile sur son visage pour apaiser les peurs ou les craintes du peuple. Il y avait aussi l'injonction dans ce geste de ne pas adorer Moïse, mais de fixer les regards sur Dieu à travers l'image du tabernacle. Mais cette troisième illustration nous invite, à cause de notre statut de fils et de filles d'adoptés, de nous adresser ou de rencontrer le Seigneur sans voile. Et je cite le chapitre 3, verset 16, « Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. » Et cette citation fait référence au texte de 1 Corinthiens 13, verset 12, dans lequel on retrouve l'image du miroir. Et je cite, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. » Cette dernière partie de la phrase fait allusion, bien sûr, au futur, à l'éternité. Mais pour aujourd'hui, en attendant, nous pouvons nous présenter devant Dieu en le louant et en l'adorant. La conséquence produit ou devrait produire en nous une transformation à laquelle le texte fait allusion. Nous tous, qui le visage dévoilé, et on comprend pourquoi on peut affirmer cela, nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Une question aussi. L'année 2011 verra-t-elle des transformations dans nos vies? Et puis, notre dernière illustration, qui est l'image d'un vase, donc la quatrième. Raymond, quatrième. Voilà, merci. Le statut d'adopté par la grâce du Seigneur, qui est le mien et le vôtre, ne doit et ne veut pas nous laisser oisifs. Et pas seulement consommateurs de cette grâce, ce qui hélas nous arrive souvent. La grâce du Seigneur doit nous mettre en marche, en mouvement. Et nous avons eu un bon exemple lors de nos soirées de Noël, avec ce thème énoncé par Michel Sorex, rejoindre les autres. Et je crois que ça a été un excellent commencement. En tout cas, nos amis de communique qui nous accompagnaient ont été vraiment bouleversés par la manière dont nous avons essayé de rappeler la naissance du Seigneur. Alors la question pour 2011, verra-t-elle des transformations dans nos vies? Et puis, la dernière illustration, c'est l'image du vase, on est un petit peu en avance, mais ça ne fait rien. Le statut d'adopté par la grâce du Seigneur, qui est le mien et le vôtre, j'ai déjà cité ça. Alors, la question pour 2011, serons-nous des vases de terre qui permettent, par nos attitudes, nos actes, nos transformations, de transmettre ce trésor impérissable. Alors que Dieu bénisse sa parole. Amen.